Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire.
Depuis près d'un demi-siècle, l'Iran défie l'Occident et intrigue le monde. Théocratie, héritière d'un empire millénaire, au cœur des tensions du Moyen-Orient et aujourd'hui sous les bombes. Pour comprendre ce pays, il faut suivre le fil de ses révolutions.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'iranologue Yann Richard.
Épisode 3. 1941, l'Iran envahi.
Je vais vous donner un visa. J'en ai refusé à beaucoup d'autres, mais je veux que vous alliez constater par vous-même si toutes ces histoires d'agents allemands sont vraies. L'Iran est pro-britannique, pro-allemand, pro-russe, pro-tout le monde. Nous sommes totalement neutres. C'est une absurdité totale de raconter que les nazis dirigent le pays. Réponse de l'ambassadeur d'Iran au Caire adressée au correspondant du Daily Express qui lui avait déposé une demande de visa en août 1941. Réponse étrange. Yann Richard, que cet ambassadeur qui dit non, on n'est pas pro-nazi, pourquoi le dit-il et pourquoi doit-il s'en défendre ?
Parce que la sympathie des Iraniens pour les Allemands pendant la Première Guerre mondiale était connue de tous, du fait que les Allemands étaient hostiles aux Britanniques et aux Russes. Et là, on retrouve un peu le même schéma. La sympathie des Iraniens... Alors d'abord, quand Hitler s'est retourné contre l'Empire soviétique, bien sûr, on disait, voilà, c'est ce qu'on attendait, on va supprimer ce danger communiste. Et en plus, Hitler, c'était celui qui allait vaincre les Britanniques, qui avait envoyé des armées jusqu'au Caucase, c'est-à-dire pas très loin de l'Iran. Et il y avait une sympathie, peut-être pas de tous les Iraniens, mais d'une grande partie de l'opinion iranienne, pour ces gens qui allaient les libérer de la tutelle britannique.
Alors, il faut quand même s'y arrêter. Donc, vous dites, vous, c'est un engagement ou une approbation qui est purement stratégique, nationale. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans, parce qu'on ne peut pas dire que c'est les Allemands, c'est quand même le régime nazi. D'ailleurs, c'est la réponse qu'il lui donne, l'ambassadeur.
Il y a une certaine similarité entre le nationalisme iranien développé par Reza Shah, avec des valeurs sur l'arianité, etc. Bon, il faut modérer tout ça, et les valeurs des nazis. En réalité, il n'y a pas eu, même par exemple pour les juifs iraniens, il n'y a pas eu de mouvement d'antisémitisme virulent en Iran. Il y a toujours eu de l'antisémitisme rampant en Iran, un mépris pour les juifs qui étaient dans des ghettos, etc. Mais il n'y a jamais eu de mesures violentes contre eux. Et peut-être que les Iraniens ne voulaient pas, d'ailleurs, que les nazis viennent les manipuler trop. Ceci dit, dans des contrats, qu'il s'agisse de l'aviation, de construction pour le chemin de fer, etc., les Iraniens étaient contents d'avoir affaire, quelquefois, à d'autres sociétés qu'aux sociétés britanniques, ou russes, ou françaises. Donc il y avait les Allemands, et ces contrats se sont arrêtés assez brutalement quand il y a eu l'invasion de la Tchécoslovaquie, parce que Reza Shah s'est inquiété de voir que ses sources d'armement, qui venaient en partie aussi de Tchécoslovaquie, seraient dans les mains d'une seule puissance étrangère, à part les Britanniques. Et donc il a modéré les contrats. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mouvement massif. Et là, je m'appuie sur les travaux d'un historien israélien, Hirschfeld, qui a fait une étude très intéressante sur Reza Shah et les nazis. Et il n'y a pas eu cette connivence fondamentale et systématique entre l'Iran et les nazis. Donc, ce que dit cet ambassadeur n'est pas tout à fait faux.
Et peut-être même un peu vrai. Mais est-ce que c'est vrai aussi quand il dit l'Iran est pro-britannique, pro-allemand, pro-russe, pro-tout le monde? Et est-ce que c'est possible, pendant la guerre, d'être pro-tout le monde?
L'Iran était surtout nationaliste, ouais, de plus en plus. Et l'occupation...
De plus en plus.
Je pense, oui. Parce que l'occupation directe par les Soviétiques au nord et les Britanniques au sud a provoqué la montée du sentiment nationaliste. Les Britanniques ont été sans pitié pour les Iraniens. On en a des témoignages par les diplomates américains qui font des rapports, mais... incroyable, il y a un diplomate américain envoyé par Roosevelt qui dit mais les Britanniques sont encore plus détestés que les Soviétiques. Tellement ils sont méprisants, ils traitent les Iraniens comme moins que les Indiens en Inde. Voilà, c'est des sous-hommes. Et c'est, disons, il y a eu ici, je pense, le germe d'un mouvement nationaliste très fort qui s'est concentré ensuite sur le pétrole.
On va y venir au pétrole, bien sûr, mais vous avez dit très vite que le Royaume-Uni et l'URSS envahissaient l'Iran. Pourquoi envahir un pays neutre ?
Parce que il fallait ravitailler l'URSS en armes, en blé et en pétrole. Staline n'avait plus de ressources. Et grâce à cette voie iranienne, où il y avait une ligne de chemin de fer que Reza Shah avait fait construire du sud vers le nord, qui a été mise aux normes par les Américains à ce moment-là, les Américains s'occupaient de la logistique. Et grâce à ça, on a ravitaillé en masse l'Empire soviétique qui a pu résister à la fameuse bataille de Stalingrad qui a duré 2 ans, qui a été un carnage épouvantable de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est grâce à l'Iran que cette bataille a été gagnée par les Soviétiques.
Ce qu'on ignore souvent.
On l'ignore très souvent. Ouais. Voilà. Et c'est grâce aux armes américaines et britanniques qui passaient par l'Iran.
Que va devenir Reza dans ce conflit ?
Alors Reza, dès le début, a résisté. D'abord, lui, il avait rêvé que les Américains viendraient le protéger des Britanniques. Il avait même fait miroiter aux Américains qu'il allait leur acheter des avions de combat, etc.
Ça, ce sera pour son petit-fils ?
Oui, son fils.
Son fils, pardon, son le fils. Oui, bien sûr.
Et les Britanniques l'ont obligé à démissionner. Ouais. Il a été destitué, en réalité, par les Britanniques.
En quelle année ?
En 1941, septembre 1941, peu de temps après l'occupation. Il n'y a eu quasiment aucune résistance à cette occupation, ça a duré une semaine, les combats, il y a peut-être eu une dizaine de morts, et les Britanniques ont choisi de le faire partir. Donc ils l'ont mis en convoi, ils l'ont envoyé vers l'île Maurice. Et ils ont mis, après avoir hésité un peu, ils ont cherché un prétendant Qadjar pour remettre l'ancienne dynastie au pouvoir, mais ils ont trouvé qu'un prétendant qui ne parlait pas persan, c'était un peu gênant. Donc finalement, ils ont pris le fils de Reza Shah, Mohammad Reza, qui avait tout juste 21 ans, et qui était très content peut-être d'arriver au pouvoir, sauf qu'il n'était pas préparé du tout. C'était un jeune homme qui avait fait quelques études en Suisse, qui avait quelques idées, qui parlait très bien français, qui parlait déjà assez bien l'anglais, donc il pouvait communiquer avec les occupants. Et puis, on se disait, on va le manipuler comme on veut. Donc, et en réalité, il a eu plutôt un rôle positif au début, et notamment, il a permis la reprise par l'armée iranienne en 1946 de 2 provinces que les Soviétiques ne voulaient pas libérer. Les Soviétiques avaient inventé des solutions à la soviétique en créant 2 républiques autonomes. La première, République d'Azerbaïdjan assez vaste, qui coupait l'Iran de sa province la plus riche en blé, l'Azerbaïdjan. Et la deuxième, c'était la province du Kurdistan. Hélas, pour ces 2 républiques autonomes, elles ne s'entendaient pas entre elles. Et surtout, les Soviétiques ont été sommé par les Américains, c'était la première grande crise de la guerre froide, d'évacuer l'Iran. Donc l'armée iranienne n'a pas eu de mal à déloger les pouvoirs qui s'étaient installés à Tabriz et à Mahabad.
Est-ce que c'est un grand moment, ça, de l'histoire contemporaine iranienne, de cette souveraineté nationale retrouvée, de ce nationalisme triomphant ?
C'est très important. D'ailleurs, c'était fêté chaque année par le Shah, hein, qui se mettait comme le héros de la restitution de l'Empire perse dans ses frontières traditionnelles. Et pour les nationalistes iraniens, tous les dangers de séparatisme rappellent ce traumatisme qu'a été, pendant quelques mois, le détachement de la souveraineté nationale de ces 2 provinces de l'ouest de l'Iran. Et donc, quand on voit aujourd'hui, alors si vous rappelez sans cesse l'actualité, et hélas, le président...
Pas sans cesse, quand même.
Le président Trump a laissé miroiter qu'il allait armer les Kurdes contre la République islamique. C'est une bêtise indescriptible, parce que s'il fait ça, le nationalisme iranien ne tolérera pas une seconde qu'il y ait un pouvoir virtuellement séparatistes qui viennent amputer l'Iran d'une province importante qui serait le Kurdistan.
Et pour comprendre ça, il faut revenir 80 ans plus tôt, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez cité à plusieurs reprises la référence perse. Il faut nous dire un mot quand même. Pourquoi c'est important? Et d'ailleurs, double question, pourquoi c'est important dans la mythologie, dans le roman national iranien, et puis aussi dans l'idée qu'un homme, un homme providentiel, doit guider ce pays? Il y a l'idée d'Arius Ier, il y a l'idée de Sirius, il y a l'idée des grands empereurs du passé.
Alors,
vaste question.
C'est un grand malentendu, parce que nous, Européens, oui, avons appelé l'Iran la Perse,
oui,
jusqu'à aujourd'hui. Hein,
oui.
Y a encore beaucoup de gens qui disent la Perse. Leur langue, c'est le persan. Et pour nous, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, parce que c'était le nom que les Grecs employaient, alors que les Perses sont une des tribus de l'Empire achéménide. Mais bon, on disait la Perse, comme la langue, c'est le persan. Enfin, tout allait... Et puis, Reza Shah, en 1935, a voulu donner une image moderne de son pays. Donc il a dit, on va demander aux légations étrangères de ne plus dire la Perse, mais l'Iran. Et tout le monde s'est moqué de lui. De fait, c'était une mesure un peu ridicule, mais il a tenu à ce que le nom officiel de l'Iran soit partout le même. Pour les Iraniens, ça ne changeait rien, puisque l'Empire d'Iran s'appelait l'Empire d'Iran. C'était Iran, le mot. Et Iran, ça veut dire la terre des Aryens. Et c'était le nom traditionnel, en tout cas depuis les Safavides, mais même avant, qui était utilisé par les Iraniens pour se désigner par rapport aux Arabes, par rapport aux Turcs, par rapport aux Turkmènes, aux Afghans, aux Kurdes, etc. Donc c'est les Iraniens. On a plus tard essayé de voir comme ces terres des Aryens une sorte de mesure allant dans le sens que les nazis voulaient impliquer en Iran. Non. Non, c'était simplement une mesure un peu ridicule pour dire au monde entier, nous sommes un nouveau pays, c'est plus les tapis persans, c'est l'Iran industriel, l'Iran exportateur de pétrole, etc. C'est un grand pays dans la région.
Mais il n'y a pas de référence dans le roman national iranien à cette grandeur passée, parce que, alors, peut-être que le plaque est regardé très européen.
En permanence. Oui. Par exemple, le Livre des Rois, le Shahnameh, c'est la grande épopée que tous les Iraniens apprennent par cœur à l'école. Chonin goft moubat ke yekrous tous bedangah ke khizat khurush khurush. C'est un livre absolument magnifique. Et je vais vous donner juste un petit souvenir.
Allez-y.
Que je raconte dans mes mémoires qui vont paraître bientôt. J'habitais chez des Iraniens avec... Il y avait un autre colocataire qui était dans un groupe marxiste-léniniste, et je le voyais lire en permanence l'édition de Moscou du Livre des Rois. Et alors, je lui ai demandé ce qu'il lisait, il m'a dit « c'est le Livre des Rois ». Je lui ai dit « mais enfin, toi qui es marxiste, pourquoi tu... » Et il m'a dit « tu n'as rien compris, le livre, c'est pas le Livre des Rois, c'est le Livre du peuple iranien ». Donc les Iraniens se reconnaissent. Et la République islamique a fait une erreur grandissime au début. Ils ont voulu supprimer le Livre des Rois des manuels scolaires. Bon, je vous rappelle quand même, c'est un grand poème qui a 1000 ans. Donc la langue est un peu vieillie. Eh bien, ça n'a pas pris. Les Iraniens ont exigé le retour et ils l'ont fait.
Et dans ce grand récit du retour aussi à la nation, il y a bien sûr une ressource stratégique majeure, le pétrole, qui sera l'objet de notre prochain épisode. Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire, est un podcast original de France Inter.